Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en Terre Limousine. Bienvenue chez Pierre-Auguste Renoir, peintre français, Limoges, 25 février 1841, Cagnes-sur-Mer, 3 décembre 1919. Renoir, perclus de rhumatisme, garde toujours cette joie de peindre. Il va terminer sa carrière de peintre et de sculpteur dans le midi de la France, à Cagnes-sur-Mer. Pierre-Auguste va alors nous léguer une œuvre au ton chaud, coloré et lumineuse, dont la volupté des nus féminins n'est pas sans rappeler Rubens, Fragonard, Ingres, ses maîtres de toujours. En 1910, Renoir ne se déplace plus qu'en chaise roulante. Ses mains déformées, recroquevillées, tiennent difficilement le pinceau. Sa peau est à vif. On est obligé de lui mettre dans la main et entre les phalanges un morceau de tissu, afin que le bois des pinceaux ne le blesse pas. Malgré les souffrances, Renoir continue inlassablement de peindre. Il adopte alors un style en largeur pour plus de facilité. Grâce à un chevalet réglable, il peut atteindre toutes les parties de la toile.
Cagnes-sur-Mer.
À la fin de sa vie, il s'est installé définitivement depuis 1903 à Cagnes-sur-Mer. Il s'est fait construire une maison sur le terrain des Colettes, plantée d'oliviers, acquis en juin 1907 pour y passer chaque hiver. Sa femme acheta le terrain pour sauver les oliviers menacés de destruction. Cette même année, le tableau de Madame Georges Charpentier et ses enfants est acheté lors d'une vente aux enchères par le Metropolitan Museum of Art de New York. Renoir peint de nombreuses natures mortes, les fraises, natures mortes aux pommes, roses dans un vase, et des paysages, la ferme des Colettes avec ses oliviers. Pour se protéger des intempéries et recevoir la lumière, il fait édifier dans son jardin un petit abri de verre afin de peindre comme en plein air.
Voyage en Terre de Couleur.
Ambroise Vollard, rencontré en 1895, dont il a fait le portrait à maintes reprises, conseille Renoir en 1913 de s'initier à la lithographie, l'eau-forte et à la sculpture. Quelle idée saugrenue de la part de Vollard, alors que Renoir est incapable de tenir un pinceau. Ce dernier s'exclame.
Quand Vollard a commencé à parler de sculpture, j'ai commencé par l'envoyer au diable, mais après réflexion, je me suis laissé faire.
C'est ainsi que ses aides, Richard Guinaud, jeune sculpteur espagnol, ancien élève d'Aristide Maillol, et ensuite Louis Morel, natif des Soies, travaillent, sculptent la terre d'après les dessins et indications de Renoir. En sortiront une quinzaine de sculptures, dont la Vénus Victrice, Cagnes-sur-Mer, Maison des Colettes, le Jugement de Paris, plâtre au musée d'Orsay, la Grande Laveuse accroupie, bronze de 1917. Maillol et Renoir avaient en commun la même antipathie pour le sculpteur Rodin, qu'ils jugeaient trop naturaliste et prétentieux. Pierre-Auguste est nommé en 1911 officier de la Légion d'honneur. En 1913, 5 tableaux de Renoir sont exposés à l'Armory Show de New York.
Gabriel.
En 1914, Gabriel quitte les Renoir à Cagnes. Elle rencontrera par la suite Conrad Sled, peintre américain, son futur mari, dont Jean Renoir sera un des témoins du mariage célébré en 1921. Son fils s'appellera Jean, en souvenir d'une profonde amitié vouée à Jean Renoir. Pour l'anecdote, Gabriel, une fois veuve, viendra s'installer en 1955 près de Jean Renoir et sa compagne Dido Frère, à Beverly Hills, en Californie. Le lien d'amitié et de tendresse qui existait entre deux ne s'était jamais rompu.
Revenons en août 1914.
À la déclaration de la Première Guerre mondiale, ses fils sont mobilisés tous les deux. Pierre, devenu comédien, est grièvement blessé à la jambe et au bras. La propriété des Colettes est réquisitionnée par l'armée française pour y abriter des soldats. En 1915, c'est au tour de Jean d'être blessé sérieusement lors des combats à Gérardmer dans les Vosges. Une balle lui a fracturé le col du fémur. Sa mère, malade, souffrant de diabète, lui rend visite, mais très fatiguée. Elle décède le 27 juin 1915 dans son appartement à Nice. Elle est alors inhumée dans le cimetière du château de Nice.
Au-delà du chagrin, la peinture.
Renoir échappe au chagrin et à la douleur grâce à la peinture, qui lui insuffle la force de vivre. Il continue de peindre sans répit, malgré sa peau à vif, sa paralysie, mais l'esprit toujours alerte et l'œil vif. Il faut le transporter de son lit à l'atelier, afin qu'il peigne les baigneuses, son dernier chef-d'œuvre. Le tableau, de 1m10 sur 1m60, représente au premier plan deux femmes nues, allongées, alanguies, tout en volupté, rondeur et bourrelées, qui nous rappellent la chair des Rubens. Le premier modèle, André Oechling, connu sous son nom d'artiste Catherine Oechling, épousera Jean Renoir le 24 janvier 1920. Vous pourrez admirer ce dernier chef-d'œuvre au musée d'Orsay à Paris. Durant l'année 1917, afin d'instruire Claude à l'art de la céramique, son père lui fait construire un four dans la propriété. Sa collaboration avec Guinaud prend fin. Matisse lui rend visite à Cagnes.
Visite au Louvre.
En 1919, Renoir est nommé commandeur de la Légion d'honneur, ultime reconnaissance. Le général Corbillet le décore à Nice. Les peintres, Matisse, Marquet, Bonnard, viennent le voir chez lui. Il se rend à Paris pour visiter le Louvre une dernière fois. On le pousse, en chaise roulante, à travers les salles, ouvertes pour lui tout seul. Il admire les toiles de ses maîtres, qui lui ont tout appris. Ultime reconnaissance de son vivant, le portrait de Madame Georges Charpentier trône dans une des salles du palais.
Voyage en terre de couleur, Pierre-Auguste Renoir.
En ce début de novembre 1919, il est atteint d'une congestion pulmonaire qui lui fait dire
« Je suis foutu ».
À l'agonie, il prononce ces mots.
Je crois que je commence à y comprendre quelque chose.
Deux médecins de Nice se soignaient. Un des deux médecins lui raconte que la veille, il avait tué à la chasse deux bécasses. Renoir, dans son délire et avant de s'éteindre, aurait murmuré
« Vite, donnez-moi ma palette. Tournez à gauche la tête de cette bécasse. Je ne peux pas peindre le bec. Vite, vite, des couleurs !»
Ses deux fils, Jean et Claude, étaient présents à son chevet. Pierre arrivera un peu plus tard. Renoir s'éteint le 3 décembre 1919, à l'âge de 78 ans, et rejoint provisoirement son épouse dans le cimetière du château de Nice. Suivant les auteurs, retraçant l'œuvre du peintre, il est fait mention de trois tableaux différents que Renoir aurait peints lors de ses derniers instants. Une nature morte aux deux pommes, un bouquet d'anémones vu sur le rebord de la fenêtre, ou ce tableau des bécasses. Renoir est parti en héros de la peinture. Il avait demandé à son fils Pierre
« Ne me fais pas poser une pierre trop lourde, afin que j'aie la force de la soulever si quelquefois l'envie me prend d'aller me promener dans la campagne. »
Les sépultures de Pierre-Auguste Renoir et d'Aline, son épouse, ont été transférées en juin 1922 au cimetière des Soies dans l'Aube. Renoir repose avec deux de ses fils, Pierre, l'acteur, Jean, le cinéaste, et la seconde épouse de Jean, Didot frère. Aline Charigot-Renoir est inhumée avec son fils Claude, le céramiste, sa mère et son petit-fils Claude, fils de Pierre. La tombe d'Aline se trouve derrière celle de son mari. Elle était surmontée de son buste, sculpté par Guinaud, mais qui a été volé en juillet 2005. La tombe de Renoir, quant à elle, a toujours le sien. Le sculpteur Louis Morel repose non loin de leur sépulture.
Du côté du musée. Cagnes-sur-Mer.
En passant par Cagnes-sur-Mer, n'oubliez pas de faire une halte au musée Renoir. Il est situé dans la dernière demeure du maître, au cœur des oliviers et plantations d'agrumes, avec une vue magnifique sur le cap d'Antibes. Il renferme 14 toiles originales, un espace sculpture abritant des plâtres déposés par les familles Renoir et Guinaud, ainsi que le mobilier et objets d'époque, sans oublier l'atelier. Vous pourrez y admirer entre autres des grandes baigneuses, Coco Lisant, portrait de Madame Colonna Romano, nature morte aux pommes et aux amandes, œuvre déposée par le musée d'Orsay. La ferme des Colettes et les toits du Vieux-Nice, acquis en 1910, appartiennent à la ville de Cagnes-sur-Mer. Quant à la laveuse, cette toile a été déposée par le musée des Beaux-Arts de Lyon.
Anecdote.
Si vous chinez sur les brocantes, vous pourrez peut-être trouver un Renoir pour 7 dollars. Cette soi-disant aventure arriva à une Américaine sur un marché aux puces de Virginie en 2009. Elle aurait acheté ce tableau pour son cadre, sans se douter qu'il s'agissait d'un authentique Renoir, malgré la plaque gravée au nom de l'artiste sur le cadre. Paysage bord de Seine resta dans des cartons au garage pendant quelques années, avant d'être ressorti au grand jour. Sur les conseils de sa mère, elle fit expertiser l'œuvre par la Potomac Company, qui l'estima entre 60 000 et 80 000 euros. L'agence organisa la vente fin septembre 2012, mais celle-ci fut suspendue par le musée d'art de Baltimore, qui en revendiqua la propriété. En effet, ce tableau acheté en 1926 à Paris chez le marchand d'art Bernheim Jeune par un Américain Herbert May avait été légué au musée en 1951 au décès de son propriétaire. Malheureusement, la même année, la toile fut volée au musée d'art lors d'une exposition. Il aura donc fallu attendre plus de 60 ans avant que l'œuvre ne fût rendue au musée par la justice de Virginie. Paysage bord de Seine est une toile de petite dimension, 14 sur 23 cm, exécutée par Renoir vers 1879. Comment une toile de cette valeur s'est-elle soi-disant retrouvée sur un marché aux puces? Bien des interrogations subsistent.
Voyage en terre de couleurs.
L'œuvre de Renoir est éparpillée dans le monde entier, dans des musées nationaux et des collections particulières. Nous la retrouvons à Paris, au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie, Marmottan, en province, Bordeaux, Colmar, Lille, Limoges, Reims, Rouen, et bien sûr à l'étranger, Metropolitan Museum de New York, National Gallery de Londres, Barnes Foundation de Marion, Clark Art Institute de Williamstown, Musée de Sao Paulo au Brésil, de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Suisse, pour ne citer que les principaux. Refermons les portes du musée pour écouter maintenant Jean Renoir nous expliquer comment son père débutait un tableau.
L'instant pratique, pratique.
Renoir peignait sur un fond blanc préparé à partir de blanc d'argent, mélangé à un tiers d'huile de lin et deux tiers d'essence de térébenthine. Il étalait ensuite cette peinture diluée sur toute la toile, puis...
Peu à peu, des traits roses ou bleus, puis tertres de sienne, s'entremêlaient en parfait équilibre. D'habitude, le jaune de Naples et la laque de Garance n'intervenaient que plus tard. Le noir d'ivoire tout à fait à la fin. Il ne procédait jamais par angle ou trait. Son écriture était ronde, comme s'il avait suivi le contour d'une jeune poitrine. La ligne droite n'existe pas dans la nature. À aucun moment de l'exécution, le tableau ne montrait le moindre signe de déséquilibre. Dès les premiers coups de pinceau, on avait une toile complète, bien balancée. Le problème était peut-être pour Renoir de pénétrer le sujet sans perdre la fraîcheur du premier étonnement. Enfin, du brouillard surgissait, le corps du modèle ou le paysage, un peu à la façon dont il aurait surgi d'une plaque photographique baignée dans le révélateur. Des points absolument négligés au début prenaient une importance.
Pour compléter cette dernière partie de la vie de Renoir, un film est sorti en 2013 de Gilles Bourdos, s'intitulant « Renoir ». Nous voici arrivés au terme de notre voyage autour de Pierre-Auguste Renoir. Je vous invite à me retrouver très prochainement sur cette même antenne, chez Claude Monet. Pour accompagner notre cheminement autour de Renoir, Dictionnaire des grands peintres, Michel Laclotte, chez Larousse. Grand peintre, Renoir, publication F Magazine. L'abécédaire de l'impressionnisme, chez Flammarion. Encyclopédie de l'impressionnisme, Maurice Cérulaz, chez Somogji. Renoir, les chefs-d'œuvre, Patrick Bad, chez Azan. Le monde de la peinture, au cœur de l'impressionnisme, chez Hachette. Comment peindre à l'huile, José Paramon, chez Bordas. Les secrets de la peinture à l'huile, David Lewis, édition Fleurus. Le manuel de l'artiste, Ray Smith, chez Bordas. Site internet du musée d'Orsay Paris, musée des Beaux-Arts Limoges, musée Fournaise Chatou, musée Renoir Cagnes-sur-Mer, des villes d'Essois, de Cagnes-sur-Mer et de Chatou. Adresse internet renoir.chez.com, pays-d-impressionniste.fr, renoir-essois.fr, sotheby's.com, nicematin.com, l'express.fr septembre 2013, janvier 2014. Enfin, le figaro.fr septembre 2012 et septembre 2013. Prochaine rencontre, Claude Monet. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.